Ah, ils ont pas juste voulu que ça passe à la trappe, quoi.
Ah ouais, c'était dur. Pendant le visionnage, je me suis dit que c'était peut-être un défi de faire le Frankenstein Junior à la française.
À la bonne franco-française.
Mais du coup, je crois que c'est un peu loupé, malgré tout. Dommage, parce qu'en fait, il aurait pu y avoir des idées sympas, ou des bonnes intentions en tout cas, avec la créature au cœur tendre qui est Eddie, en quête de reconnaissance, d'amour, mais ça joue trop mal dans le film pour qu'on soit touché. Ils auraient pu jouer sur la question du lourd héritage du personnage de Jean Rochefort, parce que plusieurs fois ils disent qu'il a un lourd héritage.
Ils disent pas ce
mais qu'on... on n'explique jamais le truc, donc ça sert à rien.
Ouais. 2-3 procès aux fesses.
Non, pas Jean. Pas lui. Et bon, voilà. Ce qui est un peu rigolo, c'est les clins d'œil à Boris Karloff, parce qu'ils en parlent souvent comme si c'était des fans, mais en fait, il leur arrive exactement la même chose. On voit pas mal d'extraits de films des années 30. C'est plutôt chouette.
Genre, regardez, c'était bien.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, on fait que des films de merde.
J'ai une question.
Ouais.
Eddie Mitchell, est-ce qu'il était maquillé comme une star
il
de ciné?
Il était maquillé.
Est-ce qu'il était accoudé?
Il a un sacré maquillage d'ailleurs. Donc, il a un sacré maquillage, mais surtout à un moment, il tombe sur la trousse de maquillage de la meuf de Jean Rochefort et il s'en tartouille tout plein sur le visage et il est déjà trop moche en tant que créature.
Mais il essaye de s'humaniser.
Et du coup, il met du blush et tout. Ouais. Et du gros rouge à lèvres dégueu, c'est horrible.
Ça fait un peu le massacre à la tronçonneuse quand il a son masque avec le rouge à lèvres et tout. Là.
Joker. Regardez, je suis humain. Non, pas trop en fait.
Je vous conseille de regarder des photos, ça vaut le détour quand même. Oui, à la scène de fin, il y a surtout, on voit deux robots à la fin qui sont coiffés un peu à la Ziggy Stardust. Mais un des deux, c'est Marc Lavoine.
Mais c'est pas possible.
Et ça vaut le coup.
Il y a des robots.
Ouais.
Des robots Marc Lavoine.
Des robots Marc Lavoine. Voilà, c'est le principal attrait de ce film. Cut my budget again without any explanation. And he took 3 of my prototype chips before I had the chance to test them. Now you're going to tell me everything that's going on right now. 2 days and I'll tell you everything we got. You're going to be a daddy. Yay!
The Vindicator, donc connu sous le nom de Frankenstein 88, connu sous le nom de Roboman.
Wow.
Donc c'est sorti avant Robocop, mais c'est à peu près la même histoire. Donc nous sommes dans les années 80, il y a du chrome partout, ça brille, ça rutile, nous suivons le chef d'un projet scientifique qui expérimente sur des animaux de manière assez cruelle en implantant des puces dans des singes qui les rend hyper agressifs dès qu'ils se font embêter.
Ça c'est la mouche.
C'est Elon Musk.
Nous avons plusieurs scientifiques qui travaillent à ce projet, dont le chef qui est aussi le méchant. Détourne l'argent pour son projet secret qui s'appelle le projet Frankenstein. Nous rencontrons le héros qui fait partie de ce projet qui se retrouve tout seul dans le laboratoire pendant que ça commence à sonner partout, ça bip bip partout et rentre dans une machine. Explosion, première explosion du film. Est-ce qu'il est mort? Non, parce qu'on récupère son corps, effectivement.
Non, parce qu'il y a un film.
C'était un piège. On récupère son corps et on le reconstitue en lui implantant la puce des singes pour faire un humain hyper vénère. Donc là, ce qui est assez tragique, c'est un peu le contraire de Frankenstein, en fait, parce qu'ils prennent un humain pour en faire une machine. Mais il a toujours sa conscience et il a conscience qu'il est un automate. Et il y a vraiment des moments assez touchants presque dans son regard parce que il lui reste que son regard. Il a un espèce de masque à la Top Gun, un mélange de Top Gun et Robocop. Ah oui. Voilà, il arrive à s'échapper, il se fait poursuivre par les méchants. Le problème étant qu'il peut plus retrouver sa famille parce que dès qu'il a la moindre contrariété, il tue tout le monde. Donc il est obligé de se casser.
Il y a plus de sel.
C'est Nicolas Cage.
Donc voilà, on voit un exemple quand il se fait alpaguer par un gang de loubars à moto.
Ce qui nous arrive tous les jours.
Il les tue tous. Deuxième explosion. Ensuite, une idée assez cool, quand il parle à sa femme parce qu'elle croit qu'il est mort, et il lui parle à travers le synthé, donc ça c'était vraiment trop bien, je trouve, parce qu'il veut pas se montrer, parce qu'il est vraiment terrifiant. Et voilà, il lui parle à travers. En fait, elle a un gros synthé des années 80 et il parle à travers les haut-parleurs du synthé.
Ah ouais, d'accord.
Donc ça, c'est assez cool. Voilà, donc le méchant, toujours aussi méchant. Qui engage Pam Grier, la seule actrice que j'ai notée pour ce film, donc, que l'on connaît bien dans Jackie Brown. Ah. Son rôle est de chasser le héros, et d'ailleurs elle s'appelle Hunter.
Il n'y a pas de hasard.
Donc ils essayent de retrouver notre héros qui s'appelle Carl dans les égouts, quelqu'un tire la chasse, ils se prennent une chasse d'eau, ils veulent tuer Carl avec de l'acide parce que c'est son point faible, et là, explosion. En fait, son meilleur ami, qu'on croyait être son allié, est corrompu par le grand méchant. Et ils arrivent à la fin à mettre Carl dans un gros bloc de résine, ce qui donne aussi une belle image. Ils le transportent en camion, et là, explosion. Et après, alarme partout, bip bip, voilà.
Pour l'instant, bon. C'est la version la plus proche du livre.
En prenant le recul sur le scénario, il y a quand même 2-3 idées qui sont pas mal. Après, le seul rapport avec Frankenstein, c'est qu'ils en font référence en disant « Hey, c'est le projet Frankenstein, parce qu'on va ressusciter un gars !»
Ils nous ont pas menti sur la marchandise.
Donc c'est pas vraiment une adaptation de Frankenstein.
Et tu l'as trouvé sur Nanarland, ce film?
Oui, c'est vrai, je l'ai vu sur Nanarland, mais par contre, il fait partie des films qui sont pas vraiment des nanars, parce qu'il est pas incroyable, à part 2-3 idées esthétiques, et puis la musique qui est quand même pas mal, c'est un film des années 80.
Ouais.
Voilà, à voir quand même, si on aime ce genre de film, il est sur YouTube.
Et c'est sorti avant Robocop?
C'est sorti juste avant Robocop, après les histoires de qui a écrit les scénarios, peut-être que le scénario de Robocop date d'avant.
C'est du vol et du plagiat.
Ça devait être dans les couloirs et puis ils ont entendu un truc.
Ah oui, c'est ça.
Donc celui-là, je l'aurais bien regardé en VF, mais il n'existe pas en VF malheureusement. Je crois qu'il y a juste une version portugaise.
Donc tu l'as regardé en portugais?
Donc je l'ai regardé en VO.
Ok.
Avec les sous-titres qu'il fallait caler à la main. Voilà, c'était aussi une expérience. Hein.
Notre prochain projet, c'est de doubler ce film en français.
Ah oui, oui, bonne idée.
Avec des doubleurs des années 90.
Bah oui.
Donc un film de Jean-Claude Lord. Ça ne me disait rien, ce réalisateur, mais apparemment, il a fait plein de films de plein de styles différents. Donc c'est assez marrant qu'il ait fait ça, parce que quand on voit l'affiche qui est vraiment pas mal, ça fait vraiment film de SF post-apocalyptique, alors que les autres films qu'il a fait, c'est pas du tout ce genre de thème. Voilà, bon, super décor, super costume, mais pas super scénario.
Mon Dieu. J'ai déjà vu ça.
No one need ever die. I will stop this. No, you can't achieve death. We won't know. Unless we try. I warn you, what you are suggesting is not only illegal, it is immoral.
What's happened to you?
Yes. That's the combination.
Nous allons passer à une version qui est peut-être plus fidèle à ce qu'on attend d'un Frankenstein. Donc Maxime, tu as vu la version de Kenneth Branagh?
Exactement.
C'est comme ça qu'on dit, hein.
Je crois que c'est Kenneth Branagh. Ouais. Je voulais faire une blague en lisant la page Wikipédia d'Albert Einstein pour faire une blague comme que c'est le frère de Frank. Bon, on va pas faire ça.
Du coup, non.
Oui. Version de 1994, dont le vrai titre, c'est Mary Shelley's Frankenstein. Mmh. Et première question, est-ce que ça vous fait pas penser au titre d'un autre film?
Dracula, Bram Stoker, Dracula.
Exactement, et c'est pas par hasard, parce qu'en fait, au début, le film devait être fait par Coppola. D'ailleurs, il est produit par Coppola. Dans la suite du très grand succès de Dracula, il voulait faire une série de films connectés avec déjà un peu une sorte de cinématique universe. En fait, très vite, Coppola il a abandonné la réalisation, il a foutu ça dans les bras de Kenneth. Kenneth Branagh, vous connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup d'adaptations de Shakespeare. C'est un peu la référence en Angleterre de ce truc-là, et sauf qu'en fait, il en fait des caisses à chaque fois, le côté théâtral.
Et Agatha Christie aussi, il fait Hercule Poirot.
Oui, depuis une petite dizaine d'années, là, ouais, il s'est spécialisé dans cette version-là. Et donc, c'est en 90. Et alors, vu que j'ai pas lu le livre, je pense que c'est l'une des versions les plus fidèles, entre guillemets.
Bah, c'est Mary Shelley, c'est Frankenstein,
quand même.
C'est au moins la plus
elle est créditée
fidèle.
Comme scénariste. Ah bah oui. J'ai l'impression que la plus grosse des différences, et moi ça m'a choqué, quand on voit un petit peu son enfance à Victor, donc, en fait, très tôt, on voit que donc, c'est aussi le fils d'un docteur, comme dans plein des versions, et à un moment, il y a son père qui arrive avec une petite fille qui a son âge quand il est enfant, et il dit « Ah bah voilà, ses parents sont orphelins, donc ça va devenir ta sœur ». Donc c'est beau sur le côté d'adopter tout ça, et en fait plus ils vont grandir, plus on va se rendre compte que c'est pas seulement sa sœur, ça va devenir aussi sa meuf.
Oui, c'est un peu le bouquin.
C'est ça dans le bouquin aussi.
Oui, il y a un peu de ça.
Ah merde, bon bah c'est après,
je suis qu'à la page 10, donc je m'emballe un peu.
Et en gros, dans cette version, c'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une adaptation un peu plan-plan, un peu nullos. Non mais ne serait-ce que dans le casting, je suis sûr que vous avez deviné à peu près quels sont tous les acteurs. Bah déjà,
Vu que c'est toi, donc c'est Robert De Niro.
Oui, c'est Robert De Niro. Bon, c'est la plus grosse des surprises.
Bah, Kenneth Branagh, il joue tout le temps dans ses films.
Voilà, déjà, ouais. Il joue le rôle principal.
Il fait le monstre.
Il fait le docteur. Le monstre, c'est Robert De Niro.
Ok.
Ah yes. Okay. Il est maquillé ou pas,
c'est
comme l'histoire de ciné.
Oui, oui. L'équivalent d'Eddie Mitchell. Eddie Mitchell est notre De Niro français. Hein.
Dans le rôle du père, alors bon, faut se remettre dans les années 90.
Anthony Hopkins.
Non, c'est Ian Holmes, donc qui joue Bilbo, qui joue le robot dans le premier Alien. Et devinez, roulement de tambour, qui est Elisabeth, sa sœur slash femme.
Winona Ryder.
Non, un peu plus. Alors faut se mettre. Non, mais je vais vous donner la réponse si je vous dis
Sigourney Weaver.
Non. Il fut un temps où Tim Burton aurait pu être le réalisateur.
Ah bah Helena Bonham Carter.
Oui, c'est okay. Vraiment le début de Helena Folden Carter.
Film gothique.
Mais en fait, elle joue toujours le même rôle, quoi.
Ouais.
Donc voilà, il y a quelques trucs assez sympas, mais sinon c'est très plan-plan. Ce qui est sympa, c'est toutes les mécaniques qu'il utilise pour sa machine. Il utilise des anguilles électriques. Donc en fait il y a des sortes de gros tubes et en fait les cadavres ils sont mordus par les anguilles, donc ça les fait vivre. Il y a une scène très étrange où la toute première fois que le monstre donc survit et en fait il est dans une sorte de liquide amniotique un peu à la Matrix, vous savez, quand ils sont réveillés et ils sont entre se faire un câlin et entre se battre. Il n'y a pas de musique, il n'y a que des bruits de « «». En fait, il me dit c'est hyper homoérotique, mais c'est très étrange. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de musique, ça m'a un peu gêné.
C'est dérangeant.
Et j'ai cherché sur Internet.
T'as mis de la musique, du coup.
Et tout le monde dit « «Ah, c'est très étrange, c'est
du coup, t'as mis George Michael.
Je pense qu'il peut y avoir un truc comme ça. Et en fait, bah après, il y a tout le reste de l'histoire qui est très classique, donc il va s'échapper. Je pense que le film a été réduit au montage parce qu'il y a une scène très bizarre où en fait le monstre retourne à la campagne avec l'ermite aveugle dans sa cabane. Et à ce moment-là du film, le petit frère William, il se perd dans les bois et en fait on le retrouve mort.
Ouais.
Et il y a tout un mystère sur qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ça va très vite. En gros, on découvre qu'il y a une autre femme qui a été trouvée, qui est déclarée coupable, alors que c'était sa
gouvernante.
Sa gouvernante. Mmh. Et en gros, ils arrivent dans la ville, c'est un peu le bazar, et là, il y a la pendaison avec la corde la plus longue du monde, c'est-à-dire qu'ils la font tomber d'une muraille d'un château. Donc en fait, c'est vraiment... Au début, je me dis, ouais, elle fait du sol élastique. Mais en fait, le temps de la chute, c'est long, et puis là, bah évidemment, c'est... Mort sur le coup. Donc en fait, il y a tout un sort de truc où on sait pas trop qui l'a tué et je trouve que c'est très bizarre. Et il y a une scène, moi, qui m'est ressortie un petit peu du film, c'est à un moment, il le retrouve dans une cave, donc les deux, le créateur et le monstre. Et je pense que ça doit être très fidèle à Love parce que c'est assez philosophique, c'est sur qui il est, quelle partie de lui, en fait, parce que vu qu'il est composé de plusieurs cadavres, quelle partie de lui est en fait l'original, tout ce qui est au cœur de Love. Et puis après, c'est un peu n'importe quoi. Et je l'ai vu du coup il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai déjà oublié comment ça se finit.
Ça a été marquant. Donc.
Ouais, non, mais en fait, en gros, à la fin, le monstre demande à Victor de lui faire un compagnon, donc plutôt féminin, vous dit. Et donc, il va tuer Elisabeth. C'est un peu un prémisse à la fiancée. Donc en fait, il refait un monstre avec Elisabeth. Sauf qu'en fait, c'est vraiment mort dans l'œuf parce que à peine elle prend vie, en fait, elle décide de tout cramer. Elle fait une sorte de...
comme dans Fight Club, quoi. C'est ça.
Et oui, en fait, elle prend de l'essence, elle met sur elle, elle prend feu. Et puis, je lui dis, fais tout ça pour ça.
Oui, mais c'est ça, en fait.
Ouais, en fait, le monstre et le docteur, c'est la même personne.
Oui, plus ou moins. Et... Putain, j'ai vu deux films en même temps.
C'est un remake de Fight Club.
C'est un remake.
En fait.
Et puis, bah, donc, en fait, ça finit sur le moment où ils sont dans l'Antarctique, enfin, sur la banquise, je crois que c'est dans l'Antarctique. Et en fait, le monstre décide de se cramer lui-même avec Victor qui vient de mourir. Voilà, avec son papa.
Oui, parce que en fait, pour l'instant, là, dans les versions qu'on a évoquées, il n'y avait pas ce truc de du bateau dans l'Antarctique.
Oui,
et
j'ai oublié de le repréciser. Ça commence, ça s'ouvre là-dessus.
Ok. Mm. Et dans le livre, il y a aussi une partie épistolaire qu'on ne retrouve pas. Dans... Mm.
Moi, j'adore les armes. J'adore...
Ça commence aussi dans en Antarctique, le livre.
Oui, c'est ça. Le livre commence dans l'Antarctique avec une lettre. Ce qu'on retrouvera après dans le Del Toro.
Donc voilà, assez anecdotique quand même comme film.
Ok. Hmm.
Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient que la version de Del Toro était éloignée du bouquin. Et par rapport à ce qu'on a entendu pour l'instant, ils n'ont pas vu les autres films.
Ouais. Pour l'instant, c'est celle qui paraît la plus fidèle.
Disons que faire une adaptation, ça fait partie de ça, quoi, aussi. On a déjà parlé dans cette émission-là.
Ouais.
Oui. I dream of a world where hope replaces fear. Where a crippled man can be healed to walk again. What if we could give every life the chance it deserved? Igor, help me change the world. There is a difference between using a machine to restore a life and to create something that was never supposed to exist. No! It's alive. I find your work astonishing. Could you create another one? I could and a whole lot more. Be careful, Mr. Frankenstein. Life is a sacred creation. I have a dream of an unkillable army of 1 million strong. Victor, you promised me this was all about life. It's about so much more. Et toi, Nathan, tu as vu un film de 2015, donc on fait un petit saut dans le temps. Oui, j'ai vu un film qui s'appelle Dr. Frankenstein, réalisé par Paul McGuigan.
Par Hulk Hogan.
Oui, Paul Hulk Hogan, tout à fait. Un réalisateur moustachu. Non, mais j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait. Il n'y a pas grand-chose de très, très connu, mis à part qu'il a réalisé des épisodes de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Et j'ai envie de dire, ça se voit un peu dans le style de réalisation du film. Parce que du coup, c'est un film vraiment de son époque, avec James McAvoy dans le rôle du docteur Victor Frankenstein, c'est pas Henri dans celui-là, et avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Igor.
Oh yeah.
Parce que dans ce film-là, Igor a une place très importante. Igor qui n'est pas dans le livre, c'est une création de la pièce de théâtre et après de la version des années 30.
Et c'est l'assistant du coup.
C'est l'assistant. Ouais. Et alors du coup, le film s'ouvre sur Igor, qui est un bossu qui vit dans un cirque, qui a une vie plutôt pas top, quoi. Tout le monde l'appelle le bossu ou le tordu dans ses amis. Il n'a pas de prénom.
L'autre tordu.
Il s'appelle juste.
Et pour passer le temps, quand il s'ennuie, il lit des bouquins de médecine. Et du coup, ça devient un crack en médecine juste en lisant des petits livres comme ça.
Excuse-moi, c'est exactement l'histoire de Jean-Claude Roman qui a tué toute sa famille.
En fait, il travaillait pas dans un cirque.
Il était dans sa bagnole toute la journée pour l'air des... Pardon, désolé, je t'ai coupé.
Oh, t'inquiète. Et du coup, un jour au cirque, il y a l'acrobate sur qui il a un petit crush, qui a un accident et qui tombe par terre. Du coup, il accourt pour essayer de la sauver. Et heureusement, dans le public, il y a un docteur qui est présent. C'est le docteur Frankenstein qui vient aussi. Et en fait, à deux, ils arrivent à faire des premiers secours, tout ça. L'autre, il voit que, en fait, il est vachement doué en médecine, le petit bossu et tout ça. Et du coup, il va proposer de l'emmener avec lui. Sauf que le directeur du cirque veut pas, donc il l'enferme dans une cage et tout. Mais Victor revient pour déverrouiller la cage. Il y a des gars qui arrivent, il leur fait des petits coups de karaté. Ouais, ça m'a un peu saoulé.
pour
sauver David Radcliffe. Oui, ça qui m'a un peu... Quand je dis que c'est un film de son époque, c'est que ça fait vraiment très année 2014-2015. Quand il voit les corps et tout, il voit des schémas de médecine en surimpression.
Ah, je vois très bien.
Voilà. Okay. Il fait des petits coups de technique, un peu comme le Sherlock avec Robert Downey Jr. pour pouvoir arrêter
avec
les gars.
Avec des gros ralentis, tout ça.
Pas à ce point, mais bon, il y a un peu de ça. Du coup, il emmène Igor chez lui. Il lui dit, tiens Igor, j'ai une bonne nouvelle, en fait t'es pas un bossu, c'est juste un très gros bouton d'acné.
Non.
Non. C'est humoristique,
c'est Daniel Radcliffe. Hein, même.
C'est humoristique.
Ah non, non. Ah non. Très premier degré.
Non, mais attends, on dirait un Mel Brooks là, pour le coup.
Et du coup.
Un coussin sur le dos.
Et du coup, il le chope comme ça. Il lui fout un tuyau dans le dos. Il commence à aspirer.
Non.
Le pus. Là, c'est très dégueulasse. Il a un peu de pus dans la bouche. Il recrache. Et du coup, il vide le furoncle. Après, il lui claque le dos contre le mur pour lui redresser tout ça. Il dit voilà, ça va faire un peu mal pendant quelques jours, mais tu vas pouvoir marcher normalement, tout ça.
C'est un ostéo qui te détruit, quoi.
Et il dit bon, alors on va te cacher ici. Et vu que les gens ils recherchent un bossu, tu vas prendre le nom de Igor Strassman. C'était un ami qui vit ici de temps en temps, mais là il est pas là en ce moment, donc voilà. Et du coup.
Jusqu'ici, tout est crédible. Hein.
Ensemble, ils vont commencer à bosser parce qu'ils voient que Igor il a des très bonnes notions en anatomie, tout ça. Et il va lui donner des exercices
pour les boss, apparemment.
À part qu'il avait un il lui manquait ce cours-là. Bon, voilà. Ouais. C'est un problème avec le film, quand même, c'est qu'au niveau de où ils se calent tous les deux, niveau savoir et tout, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont tous les deux calés en sciences, mais ils n'ont pas les mêmes connaissances. Et,
ils sont complémentaires.
Ils sont complémentaires, c'est ça. Et du coup, il donne des exercices à faire d'anatomie. Vraiment, genre, bah, tiens, tu vas remplir cette feuille et tout, et puis il récupère après tout ça, mais on ne sait pas trop pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent, bah, tiens, on va aller à l'université, on va faire une démonstration devant tout le monde. Et en fait, il a créé un monstre à partir avec de plein de bouts de cadavres d'animaux, principalement de singes, mais pas que. Et il dit, c'est grâce à toi, parce que du coup, j'ai pu résoudre des problèmes que j'avais pour que ça fonctionne, tout ça. Et du coup, ils vont animer le cadavre de singe devant toute la classe. Le singe qui va péter un câble et attaquer tout le monde, comme un singe normal.
Einstein 88.
C'est ça. Exactement.
Et du coup, tout le monde va être choqué, y compris l'acrobate en fait qui a survécu, qui est dans la haute société maintenant. Elle s'est mise en couple avec un producteur de cabaret, Eddie Barclay.
Vous êtes des gens de la télé ?
Et du coup, dans la salle, il y a un gars qui est un peu mécène, qui est intéressé par tout ça, qui dit « Vous m'avez convaincu avec votre histoire de singe dégueulasse.
» Qui tue les gens ?
C'est prometteur.
C'est prometteur. Et du coup, il en fallait pas moins à Victor pour qu'il dise « Bon, bah, on va faire pareil, mais version plus gros avec un humain et tout, faut qu'il soit balèze le gars, tout ça. » Entre-temps, il a une petite visite de son père. À votre avis, qui ils ont pris pour jouer le rôle du père de Frankenstein ?
Alors, quelle année ?
2015. Ah, c'est la fun fact de l'émission là.
Bah alors, est-ce qu'il était encore vivant ?
Marc Lavoine.
Oui, c'est ça, Marc Lavoine.
Donc c'est fun, c'est pas si logique. Parce que moi j'aurais dit Christopher Lee.
Non, c'est pas Christopher Lee.
Est-ce que c'est un Skarsgård ?
Boris Karloff.
Non.
Ah ouais, ça aurait été.
Qui ça ?
Non, Boris Karloff, il était mort déjà peut-être.
C'est un français ou un anglais ?
C'est un anglais.
Un anglais.
Alors c'est très logique, on le voit très bien dans le rôle du père de Frankenstein.
Qui joue souvent les méchants du coup un peu ?
Oui.
Hopkins, c'est Nicholson.
Non, mais...
Celui qui joue Doc.
Non, c'est plus con que ça. C'est le mec qui joue le père de Frankenstein en 2015, c'est le mec qui joue le père de Frankenstein en 2025.
J'allais dire le mec de Game of Thrones.
Oui, ils ont repris le même acteur dans la version de Guillermo del Toro.
Ah, j'allais demander parce qu'il joue vraiment le père méchant, quoi.
Oui.
Coup, c'est un mec qui a joué deux fois le même rôle dans le film.
Et donc, effectivement, qui joue aussi un père très strict et méchant dans celle-là.
Il joue que ça, lui.
Alors que dans le roman, le père est pas méchant du tout.
Non.
Il est beaucoup plus vieux que la mère, comme dans le film, mais il est vraiment en mode très aimant avec ses enfants, tout ça.
Et ça, dans la version 94, c'est le cas.
Ouais.
Il est très aimant, il est pas du tout comme le père, Mélissa disait, c'est le père de dans Charlie et les chocolateries, le père de Willy Wonka.
Avec Johnny Depp, le père, c'est vraiment le stéréotype.
Oui, oui.
Le père exigeant au niveau des études, strict et tout.
Ouais. Oui, bah, c'est Christopher Lee en plus.
Exactement.
Voilà.
Du coup, alors, en parallèle de tout ça, on a une enquête d'un agent de Scotland Yard. À la fois parce qu'il y a un bossu qui s'est échappé,
qui a disparu,
alors qu'il était vraiment retenu prisonnier, donc c'est un peu bizarre. Et en même temps parce qu'il y a des bouts de cadavres qui disparaissent, tout ça. Et l'acteur qui joue l'agent, c'est celui qui fait Moriarty dans Sherlock Holmes.
Ah oui. Du coup, c'est le méchant du film.
Bah, non, en vrai, t'es plutôt pour lui parce que Dr. Frankenstein, il fait vraiment taré.
Ah oui.
Plus t'avances dans le film, c'est vraiment Igor qui est un peu partagé. À se dire, mais en fait, mon ami est totalement fou, mais en même temps, grâce à lui, il m'a un peu sauvé la vie.
Il m'a redressé.
Il m'a enlevé mon furoncle.
Avec un gros furoncle sur le nez.
Et du coup, bon, je passe un peu sur les péripéties, tout ça. À la fin, on arrive à la fameuse grosse expérience où il crée le monstre. Et après ça, ça fait un peu troisième acte de film Marvel, où ils vont devoir se battre contre le monstre parce qu'il est trop dangereux, tout ça. Là, ça fait vraiment le monstre grou-grou, tout gris et tout. Et ils le poignardent de chacun à leur tour parce qu'il a deux cœurs, parce qu'il devait faire deux cœurs pour que ça puisse fonctionner.
Comme Doctor Who. Voilà.
Et à la fin, donc, Victor repart un peu en errance. Il laisse une lettre à Igor pour dire « Mon ami, je vais continuer mes expériences parce que je pense qu'il y a juste un petit réglage à faire au niveau du cerveau et la prochaine fois, ce sera la bonne. »
Alors, du coup, ça finit. C'est pas du tout le méchant Victor Frankenstein.
Victor, si, là, on sent qu'il est un peu taré. Quoi. Il est un peu obsessionnel dans ses idées. Il y a une histoire où son petit frère est mort quand il était petit.
Ouais, donc c'est William. Ouais,
et il pense que c'est un peu de sa faute et du coup, il voudrait réparer ça en créant la vie. Et Igor, ouais, il est un peu trimballé plutôt, là-dedans. Quoi, ouais.
Et le monstre, il est bien ou...
Pas top, là, ça fait vraiment un monstre grou-grou. Il parle pas. On le voit vraiment que 5 minutes pour un combat. Ouais, il est c'est... en slip, tout gris, sont... très grand, très musclé.
Ils sont passés carrément métal. À côté du message sur la création, parce qu'en fait, il est même pas personnifié.
Ouais.
Et en fait... Alors que c'est un peu un truc qui est critiqué, on en parlera dans la version de Del Toro, c'est qu'en fait... Frankenstein, il considère que c'est une créature, il l'appelle It, en anglais du coup c'est la chose.
Et, pas... et ce n'est pas un clown.
et en fait il y a tout un truc sur l'humaniser, mais là en fait ce film-là il passe totalement à côté.
Oui,
dit,
oh, mais.
Méchant.
Alors ce qui est bizarre c'est qu'en fait.
c'est clair.
Frankenstein il considère aussi Igor comme sa création.
Ah oui, ah, c'est vrai.
Genre je t'ai créé parce que je t'ai donné un prénom, je t'ai enlevé ton bouton dans le dos, c'est tout ça.
Ah c'est... oui, il a vraiment
je
un problème d'ego.
T'as retiré ta condition du cirque et tout.
Ouais, c'est un vrai chirurgien quoi en fait.
Ouais. Et d'ailleurs.
Même égo.
Un des plot twists du film, c'est que on découvre au bout d'un moment que le vrai Igor Strassman, c'est un cadavre qui est planqué dans la glace dans le sous-sol parce qu'en fait.
C'était son expérience.
Oui, c'est ça.
Oh, ouais, c'est vraiment...
quand Igor en parle au mécène, t'as une discussion un peu en mode oui, mais je l'ai connu le vrai Igor Strassman, c'était un vrai con, il va pas nous manquer. Et pareil, t'as des scènes où ça, je trouve que ça avance un peu vite, quoi. J'ai l'impression d'avoir manqué des passages à certains moments, mais voilà.
Ok, très bien.
Un film de son époque. Et est-ce que le générique, il est aussi hyper 2015? J'imagine bien un générique en 3D ouais. Qui passe à travers des tuyaux, des trucs comme ça.
C'est possible. Je crois que tu dois avoir. Alors, je dis peut-être des conneries, mais il y a peut-être un générique avec des croquis qui sont dessinés en 3D. Voilà.
Avec le bruit du crayon. Ouais.
Le bruit du tonnerre.
Est-ce que c'est une petite musique un peu victorienne, un peu à la Sherlock Holmes?
Ah, il faudrait vérifier. Ding, ding,
ding, ding. Mais en version
avec l'électro. C'est une musique chinoise, ça, Maxime.
Je l'ai mal fait. C'est un peu le générique du Sherlock Holmes de Robert Downey Jr.
Nous avons un problème.
Un problème?
Oui, et même un gros problème. J'ai eu comme un sentiment de déjà-vu. En regardant votre numéro, j'ai eu l'impression qu'on venait de me le montrer.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait fait l'épisode sur Dracula, il y a à peu près 300 ans, notre invité Anthony nous avait parlé d'une version produite par Andy Warhol, donc réalisée par Paul Morrissey, et ça s'appelait Du sang pour Dracula. Et bien, l'année d'avant, donc en 1973, Andy Warhol a produit une version de Frankenstein, réalisée par le même Paul Morrissey, et qui s'appelle Chair pour Frankenstein.
Oh là, il s'est fiché.
Flesh for Frankenstein. Et Anthony nous a enregistré une petite chronique à distance. Je vous la fais écouter.
Alors, Flesh for Frankenstein, ou Chair pour Frankenstein, puisque je vais l'appeler FPR maintenant, m'a plu. Vraiment. Même s'il est complètement barré, kitsch à mort, parfois franchement dégoûtant, il m'a plu. Bon, j'avoue, j'aurais adoré que la créature, Sacha, avoue être amoureux de son ami Nicolas, mais ça, c'est juste moi. Et clairement, je me serais passé de voir le docteur en plein acte intime avec un corps inanimé. Je n'avais pas non plus besoin de voir Otto lécher une énorme cicatrice faite en pâte à modeler ou en pâte à fixe, je sais pas trop. Mais voilà. Malgré tout ça, le film m'a vraiment séduite pour ses éléments plastiques et artisanaux. Le sang est trop épais, trop rouge, presque comme de la peinture acrylique diluée. quand le docteur se fait arracher la main et qu'il essaie simplement de la recoller comme si c'était un Playmobil, c'est grotesque mais génial. Même la police du générique de début m'a énormément rappelé celle utilisée dans American Horror Story de Ryan Murphy. Et clairement, Ryan Murphy a été influencé par Flesh for Frankenstein et Blood for Dracula, qui mélangent constamment le sensuel et le grotesque. Et d'ailleurs, 2 ans